Radio Barque numéro 30 pour cette deuxième partie, Éric Andrieux. Nous allons parler, alors même si dans quelques jours vous ne serez plus député européen, vous allez rester d'abord un ancien député européen sur de nombreuses années avec une grande expérience de la chose. J'aimerais qu'on évoque avec vous, pas seulement votre rôle de député européen, ce qu'il a été, mais ce qu'est l'Europe aujourd'hui, parce que bon, on en entend à toutes les sauces, et effectivement, sur une chose aussi complexe, on peut dire tout et son contraire. Mais vous, en quelques mots, déjà, avec le recul, en tant que même citoyen, pour vous, l'Europe, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a apporté? Et éventuellement, qu'est-ce que ça n'a pas suffisamment fait? C'est un vaste programme.
Oui, bien sûr. Bon, déjà, l'Europe, il faut mesurer son histoire, hein, je le dis.
Et les circonstances.
Je l'évoquais tout à fait dans la première partie, mais il faut bien prendre la mesure de la temporalité. C'est-à-dire que l'Europe, sur le champ politique, est un nain politique. Je dis souvent ça. C'est-à-dire que si vous prenez, sur l'échelle de temps, l'histoire de France, et que vous accolez l'histoire de l'Union européenne, vous verrez que sur une feuille...
Un tout petit morceau.
Voilà, c'est epsilon, c'est une tête d'aiguille, l'Europe. Je le redis, elle n'a que 70 ans d'âge. En fait, c'est juste un bon armagnac, je prends tout sur cette image-là. Et donc, elle se construit, elle chemine. Elle a commencé à 6, et puis 9, et puis 15 États. Aujourd'hui, nous sommes 27. En fait, c'est 27 États membres, donc quasiment 500 millions de citoyens, qui représentent 27 histoires différentes, 27 cultures différentes, 27 droits différents et 24 langues officielles. Voilà, on va dire ça comme ça.
Et juste une petite parenthèse. Quid de la Turquie?
Ben, la Turquie, elle s'achemine, hein. Il y a eu des avancées, puis des reculs. Aujourd'hui, on est plutôt avec Erdogan sur le recul pour une adhésion possible, hein. Puisqu'en fait, l'enjeu de l'adhésion et de l'élargissement de l'Union européenne, c'est tout simplement parce que, qui est une question récurrente et permanente, hein, pour les députés, pour les citoyens, normalement, que nous sommes, c'est parce que les questions que nous avons à traiter aujourd'hui, du point de vue politique et géopolitique, sont des questions et des problèmes d'ordre international. Et que nos interlocuteurs au niveau européen, c'est certes bien sûr des citoyens européens, évidemment on est là pour les représenter en tant que parlementaires, mais c'est également les autres États continents. Nos interlocuteurs, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les États-Unis, c'est la Russie, et que donc le monde bouge. On parle beaucoup de rapport global par rapport au local, c'est des termes un peu peut-être fumeux, mais c'est une réalité du quotidien, et le fait d'élargir l'Europe, c'est de peser sur la scène internationale.
Mais est-ce que la grande question, c'était est-ce que la Turquie a sa place? Étant donné que c'est un pays majoritairement islamique, la grande question, c'était ça. Les désaccords sont vifs là-dessus, me
semble-t-il. Oui, bien sûr, parce que pour intégrer l'Union européenne, c'est long, il y a un processus qui est très long, et sur lesquels il faut répondre à certains éléments majeurs, en particulier la question des droits humains. Et pour l'instant, la Turquie est bien loin de respecter, la volonté politique liée aux droits humains européens. Donc, je pense que pour l'instant, la question n'est pas d'actualité, quoi. En tous les cas, la Turquie.
Mais c'est pas une question de religion, comme certains disaient.
Oui, bien sûr.
L'Europe, c'est une base judéo-chrétienne.
Oui, mais
que pensez-vous de ces arguments?
Je pense que ça peut. C'est... Moi, je pense qu'il faut transcender ces questions-là. Ça pourrait advenir dès lors que. Je dirais, du point de vue à la fois religieux, mais surtout démocratique, on partage les mêmes bases. Ce qui n'est pas le cas avec la Turquie, et en particulier, je le redis,
avec Erdogan.
Exactement. Mais aujourd'hui, lorsque les pays qui sont à la frontière de l'Europe, comme l'Ukraine, au-delà du conflit qui se déroule donc dans ce pays-là, demandent à adhérer à l'Union européenne, la question a été posée, le cheminement a démarré, mais on en a pour 15 ans. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce que il y a un grand nombre de critères donc à remplir pour pouvoir participer, je dirais, du commun européen. Et on voit bien aujourd'hui, on peut débattre longuement là-dessus. Oui, il faut approfondir avant d'élargir, évidemment, c'est un sujet que je partage. Mais il ne faut pas perdre l'essentiel. C'est-à-dire, en gros, et la question des droits est claire, si on ne partage pas les mêmes valeurs sur les droits humains, on ne peut pas rentrer à l'Union européenne. Et si on va trop vite, on le voit bien aujourd'hui en Hongrie, avec M. Orban, on le voit bien aujourd'hui en Pologne, donc c'est pas simple. On le voit bien aujourd'hui, donc dans un certain nombre de pays, ça va se passer vers la Suède, donc aujourd'hui, où effectivement, après, les choses bougent. Chaque pays est autonome. Et chaque pays, chaque citoyen dans chacun des pays a la latitude de désigner ses représentants. Et ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas être vrai demain.
Oui, bien donc, évidemment, voilà, chaque pays voilà. pouvant
évoluer. L'important, c'est que le socle commun soit réellement solide. C'est pas le cas avec la Turquie.
Pourtant, on a l'impression à un moment que parfois le politique avait fait pression pour accélérer les choses. Je pense, par exemple, dans les années 80, lorsque Mitterrand a poussé pour que l'Espagne, le Portugal et la Grèce entrent dans l'Union européenne. Certains disaient, notamment la Grèce, n'est pas encore assez démocratique. On avait encore la Grèce des colonels en tête. Mais l'argument étant, s'ils entrent dans l'Europe, on va les arrimer davantage à la démocratie. Est-ce qu'avec le recul, ça vous semble avoir été le cas ?
Tout à fait. Je pense que François Mitterrand était dans l'anticipation donc, de la réalité mondiale. Et je pense qu'il avait totalement raison. Donc, c'est vrai qu'il faut, c'est toujours la question de l'équilibre. À quel moment on peut intégrer ou on peut pas intégrer? À quel moment le pays est prêt, pas prêt? Il y a toujours une prise de risque. Mais je pense que l'enjeu intercontinental, mérite ce risque à prendre, si vous voulez. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on voit bien sur l'équilibre du monde. On n'est plus sur un monde de bipolaire, hein. C'est plus les États-Unis et l'URSS. On est confronté à une logique multipolaire dans laquelle l'Union européenne, le continent européen, de mon point de vue, doit avoir un rôle essentiel en matière d'équilibre mondial. Voilà. Et pour ce faire, il faut qu'on représente une certaine
entre
masse.
Entre les États-Unis et la Chine, pour faire simple.
Oui, États-Unis, Chine, Inde, Japon, URSS, je redis, Russie, pardon, donc qui est aussi n'a pas dit son dernier mot. On le voit en ce moment. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans une nouvelle dynamique intercontinentale où on a des États continents. Justement, donc sur lesquels on ne pourra pas agir de gré à gré entre la France et la Russie, ou entre la France et la Chine, ou entre la France et l'Inde.
On ne pèse plus assez lourd
exactement,
pour dire les choses.
Exactement.
Oui. Et alors, avec ce recul, donc justement, à votre avis, succinctement, parce qu'on pourra en écrire des livres, quels sont les apports de l'Europe et quelles sont les insuffisances aujourd'hui telles que vous les voyez ? Les apports, d'abord.
Ben, les apports, c'est déjà, on organise le vivre ensemble à l'échelle de 500 millions d'Européens. C'est qu'on a un apport majeur qui est le marché intérieur, donc évidemment, puisque ce qu'on produit ici, ben, le marché qui est ouvert est le marché européen. Donc voilà, c'est vrai pour notre région, hein, prenons les vignerons. Aujourd'hui, on ne vend pas le même produit dans la région, uniquement dans la région. Et le marché est ouvert, évidemment. Donc les apports, c'est le droit, les droits humains. On avance beaucoup en matière de droit, de gestion des migrations, hein, donc avec ces soucis qui sont récurrents, mais qui sont importants. C'est-à-dire, donc, même si c'est loin d'être réglé, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Les apports sur la politique agricole commune, hein, on peut y revenir précisément, puisqu'effectivement, on a de commun ensemble le modèle agricole qui nous permet, même s'il est loin d'être parfait, et bon, et la politique, elle est loin d'être aboutie, j'ai envie de dire, hein, les apports, c'est tout ce qui est de l'ingénierie, la science, l'espace. Les apports, c'est au moment de la pandémie, lorsque l'Union européenne, par exemple, fait un emprunt de 750 milliards pour sauver l'économie européenne. Si l'Union européenne n'avait pas fait cet emprunt-là de 750 milliards, je pense que l'économie française ne serait pas dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui.
Oui, donc, Peu de gens le mesurent, mais... cette dimension et cette crédibilité-là pour faire un tel emprunt.
Alors, ça, c'est l'urgence à montrer la cohésion, ça veut dire. L'urgence, c'est on dit souvent la nécessité fait loi, et on est vraiment dans ce cas de figure-là. Puisque l'Union se construit pas à pas, je le redis, donc, hein, on est sur les grands sujets sociétaux, donc évidemment, ce soit les droits humains, je le redis, l'environnement,
bon, puis il y a la paix en Europe, quand même.
Et j'allais y venir, mais je gardais le meilleur pour la fin. C'est-à-dire que ce qui a permis que l'Europe soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi l'élément de paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit, depuis le début de la constitution de l'Union. Voilà, et je crois que c'est important de le dire comme tel, parce qu'on l'oublie trop souvent, c'est quand même, on est garant de cohésion et garant de paix. Et ça, c'est un élément majeur. Et lorsqu'aujourd'hui, on intervient en trouvant cet équilibre-là, bien sûr, dans le cadre de l'OTAN ou avec l'OTAN, sur le conflit ukrainien, là aussi, donc, ça interroge du devenir de l'Union, hein, mais ça participe de cet équilibre du monde également.
On l'avait vu, le problème s'était posé déjà au moment de la guerre en Yougoslavie.
Bien sûr.
On pensait qu'il n'y aurait plus jamais de guerre en Europe et on avait vu quand même c'était encore possible.
Tout à fait.
Je ne parle pas de l'Ukraine aujourd'hui.
Mais ce qui a permis, par le fait de l'intégration, donc de l'adhésion de ces pays-là, de régler les problèmes. Et donc voilà, et aujourd'hui on est aussi élément de régulation en matière de paix, évidemment.
Oui. Et alors, y a-t-il des regrets pour vous ? En tant que citoyen, pas seulement en tant que député.
Oui, le regret, c'est que ça, de mon point de vue, le monde va très vite et le modèle européen a du mal à suivre la rapidité de l'évolution du monde.
Exemple, pouvez-vous être
Exemple,
concret.
L'Europe n'a pas de budget, par exemple. Très concrètement, aujourd'hui, pour moi, faire de la politique, c'est assez simple. On fixe des grands objectifs et on met des moyens en face des objectifs pour faire en sorte d'atteindre les objectifs. Le budget de l'Union européenne, il est constitué par la somme des participations des États membres. En gros, chaque État membre participe au budget européen à hauteur de 1% de son propre PIB. Donc ça veut dire que, par exemple, nous, en tant que parlementaires, je dis souvent que nous sommes un parlement hémiplégique, c'est-à-dire que nous votons les dépenses, mais on ne vote pas les recettes, puisque les recettes incombent au choix donc des chefs d'État et de gouvernement. Ça, c'est un sujet...
Oui, c'est une sorte d'incohérence,
oui, finalement. Tout à fait. Oui, mais parce que, je le redis, on est en construction, c'est l'histoire. Et on chemine. Et aujourd'hui, il y a un gros sujet de nos travaux, d'ailleurs, qui est ce qu'on appelle les ressources propres, c'est-à-dire doter l'Union européenne d'un budget autonome pour pouvoir mettre en face les grands objectifs qui se développent. Et si on prend la question du climat, c'est pas une question mineure. Si on prend la question de la pandémie qui nous a frappé de plein fouet, ou la question de la sécurité et la défense aujourd'hui européenne, qui sont des questions imminemment importantes donc dans cette séquence-là, de notre histoire commune, il faut qu'on ait des moyens dédiés pour y répondre. On peut pas demander à l'Europe de traiter des questions d'ordre international sans en donner les moyens réels. Et donc ça, c'est un sujet qui, effectivement, me laisse un petit peu, pas perplexe, mais ni inquiet, parce que ça chemine et on avance, mais qu'il faudra régler très rapidement. La question de l'autonomie budgétaire européenne, si on veut prétendre justement à des autonomies stratégiques, que ce soit en matière de santé humaine, en matière d'alimentation, en matière de sécurité ou de défense, en matière de recherche et d'espace, parce que sans cela, on n'y parviendra pas. Donc c'est un sujet majeur.
Vous pensez qu'on a conscience de ça et qu'on y va même en cheminant lentement ?
Alors, pour certains États membres, oui. Hein, on a construit la zone euro. Tous les États membres de l'Union ne participent pas la zone euro.
Déjà.
Donc, il y a une avancée à géométrie variable.
Oui.
Et effectivement, je pense que c'est un sujet sur lequel nous devrons réfléchir à l'avenir, de savoir autoriser certains États à rentrer dans les démarches communes plus lentement que d'autres. Parce qu'effectivement, chaque État n'agit pas et ne réagit pas avec la même vitesse, la même rapidité. Et donc, là, c'est des sujets, mais qui sont d'actualité, effectivement. Il faut tendre vers une union beaucoup plus intégrée si on veut qu'elle parle d'une même voix à l'échelle intercontinentale.
Oui, mais alors certains qui sont contre ou qui sont sceptiques ont peur d'une Europe fédérale.
Oui, mais au contraire, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Le pouvoir du monde, il a été confié... Je veux dire, à la marchandisation du monde. C'est-à-dire qu'on a décroché, on est parti depuis plus de 40 ans maintenant sur une économie mondialisée et un marché mondial. Donc, et on a gardé les éléments du politique, hein, de régulation à l'échelle des États-nations. Et aujourd'hui, si on veut agir à l'échelle monde, ben, il va falloir effectivement tendre vers une Europe fédérale. Lorsqu'on dit l'autonomie française, attendez, il y a très longtemps que nos outils de production, au regard de ce modèle néolibéral, ont quitté la France. Ils sont aujourd'hui en Chine, ils sont en Inde.
Et l'Europe.
Oui, c'est pour ça. Donc aujourd'hui, si on veut reconquérir le pouvoir politique au nom de la régulation de l'économie et du vivre ensemble, je pense que ça se situera à l'échelle du continent européen. Et donc effectivement, c'est comme en France, pour prendre une image, hein, le rapport entre la commune et l'intercommunalité. Lorsqu'on transfère des compétences de la commune vers l'intercommunalité, c'est parce qu'effectivement, l'échelle de l'intercommunalité nous semble plus pertinent pour agir pour le bien-être des populations. Eh bien, c'est le même schéma au niveau européen. Il y a des aspects sur lesquels il faudra, au nom de la subsidiarité, continuer à les mettre en dynamique à l'échelle locale, départementale, régionale, étatique. Mais il y a des sujets sur lesquels le niveau européen va s'imposer. Regardez la question de la pandémie. On ne sait pas répondre à la question de la pandémie à l'échelle nationale. On y a répondu à l'échelle européenne à minima et mondiale. La question du climat aujourd'hui, on ne sait pas régler la question climatique à l'échelle nationale. Le niveau européen peut infléchir les politiques intercontinentales dès lors qu'il parle à l'échelle d'un continent de 500 millions de citoyens. Et donc on pèse lourd sur l'échiquier, je dirais, international. Si on parle la question de la souveraineté, sécurité, défense, aujourd'hui, sans les États-Unis et sans l'OTAN, donc on ne peut pas participer du conflit ukrainien. Donc la réflexion qui se fait au niveau européen, c'est d'avancer vers une autonomie stratégique en matière de sécurité et de défense à l'échelle de 27 États membres pour pouvoir agir donc, et garantir la paix dans le monde telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Mais là, on a du mal à y aller, ne serait-ce que par exemple, déjà entre les États les plus forts de l'Europe, entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, même s'il n'est plus dans l'Europe, on a l'impression qu'on a des difficultés déjà à choisir des armes en commun, à choisir des stratégies communes.
Ben, parce que ça participe de notre histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Europe s'est construite après la Seconde Guerre mondiale,
oui,
vous savez bien. Donc on connaît bien de ce fait l'histoire de l'Allemagne par rapport à cet événement-là, historique majeur. On a bien perçu que c'était la France et le Royaume-Uni qui étaient suffisamment armés pour pouvoir participer.
Avec une force atomique, déjà.
Voilà, bien sûr. Et donc là, on est en train de réfléchir, mais c'est pour ça que ça chemine.
Oui, hein. Oui.
Le temps, la temporalité en politique, et vous savez bien, elle est très longue.
Donc
parce qu'on ne peut
vous...
pas forcer la main. On peut pas avoir une approche doctrinale sur ces domaines-là. Le sujet est posé. Ça va vite. Hein. L'Allemagne a fait des choix stratégiques et financiers importants dans ces derniers mois, et c'est pas rien. Et ce qui est vrai pour l'Allemagne,
c'est
vrai.
Et ça, pour vous, c'est un tournant?
Ah, je pense que oui. Oui, je pense que la guerre en Ukraine a déclenché une prise de conscience majeure, bien sûr. Lorsqu'on voit que la Suède ou la Finlande ont adhéré à l'OTAN. Demande à l'adhésion à l'OTAN, c'est pas des sujets mineurs. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que l'équilibre du monde passera par la capacité aussi à se prévenir, à se prémunir, donc, de conflits potentiels.
On marque, Éric Andrieux, une seconde pause. On se retrouve pour une troisième partie où on va parler notamment de votre engagement dans le Parti Socialiste.